Eh bien, c'est le moment de parler des nouvelles du Grand Canada français. On va rejoindre Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bien, bonjour, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, bonjour.
Alors, on va parler d'entrepreneuriat au féminin en milieu minoritaire. Ça a un prix, tout ça.
Oui, on a parlé à deux entrepreneurs et d'autres intervenants. Et entre autres, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, ou le RED, reconnaît que les femmes entrepreneurs peuvent avoir plus de difficultés à réussir en milieu minoritaire. Puis pour ça, il y a plusieurs raisons. Parmi les plus importantes, il y a l'accès difficile au capital, le manque de ressources en français et la rareté de réseaux de femmes entrepreneurs francophones de l'extérieur du Québec. Comme je vous dis, on a parlé à deux entrepreneurs pour connaître un peu plus leur expérience. Il y en a une qui est au Nunavut et l'autre est en Colombie-Britannique. Les deux sont fiers du travail qu'elles ont accompli, surtout avec les nombreux obstacles qu'elles ont rencontrés et qu'elles ont dû franchir. Puis même si elles arrivent à trouver des ressources en français, c'est pas toujours possible de trouver quelqu'un pour coopérer dans cette langue de travail-là. Par exemple, une des entreprises, celle du Nunavut, son site est uniquement en français parce que la personne qui l'a construit pour elle est anglophone, puis le propriétaire n'a pas nécessairement les moyens de payer quelqu'un pour traduire le site pour le moment. Les deux femmes interviewées n'arrivent pas nécessairement, n'ont pas le même niveau de revenu avec leur entreprise. Celle de la Colombie-Britannique a réussi à vivre de son entreprise, n'a même pu en fonder une deuxième. Et celle du Nunavut, Muriel Jacinthe, c'est une entreprise de marketing artistique, puis elle doit avoir un deuxième emploi pour réussir à vivre. Donc, ça donne un peu les deux extrêmes et ça peut aussi dépendre du domaine de travail.
Ouais, c'est là qu'on voit l'iniquité hein, d'accès à toutes sortes de soutien là, pour les entrepreneurs et entrepreneurs aussi en général. En français, surtout là, dans l'extérieur du Québec. L'agrandissement urgent d'une école francophone est en 9e place sur la liste de priorités du gouvernement. On parle donc au Nouveau-Brunswick, le Saint-Genois.
Oui, c'est l'école Samuel de Champlain à Saint-John, dans le Nouveau-Brunswick, qui manque cruellement de place. C'est la seule école francophone de la ville, puis elle accueille 950 élèves. Ouf. Ce serait, puis même si ça a l'air beaucoup, ce serait même pas la moitié des élèves qui auraient le droit de fréquenter l'école. On ne peut pas supposer que tous les francophones, tous les ayants droit verraient leurs enfants à l'école francophone, mais d'après le recensement, il y aurait presque 2000 personnes qui pourraient la fréquenter. Évidemment, il n'y a pas de place. Il n'y a même plus de cafétéria, parce que tout est utilisé pour des classes. Il y a des classes portatives à l'extérieur pour accueillir les jeunes, puis apparemment, il y a même des pupitres et des armoires dans les couloirs.
Ouais.
Il y a un parent qui se dit très déçu de la situation. Entre autres, ses filles sont tristes parce que deux de leurs amis de l'école vont aller dans une école anglophone. Les parents ont décidé d'échanger d'école pour avoir un milieu plus propice à l'éducation, on pourrait dire, et une école mieux équipée. Ça fait longtemps que les parents demandent l'agrandissement de l'école. La différence en ce moment, c'est que le gouvernement libéral de Susan Holt a répondu à la lettre qu'un groupe de parents a envoyée. Ça n'avait pas été le cas pendant 2 ans avec le gouvernement conservateur.
Ouais.
Et la ministre de l'Éducation est allée visiter l'école, voir la situation. Mais comme vous l'avez mentionné au début, malgré ça, l'école est seulement en 9e position sur la liste des priorités des projets d'immobilisation du ministère de l'Éducation pour l'exercice financier de 2024-2025, donc cette année. C'est une petite bonne nouvelle, mais un des parents prédit que si on se met à développer l'école tout de suite, il n'y aura peut-être pas plus de place avant, ça ne sera pas fini de construire avant 2032. Et donc, quand on pense qu'ils ont peut-être déjà perdu 1 million de francophones au système scolaire anglophone.
Oui, ça aide pas hein, à améliorer la situation des francophones qui vivent dans ces provinces hein, où ils sont minoritaires. Ouais. Préserver l'avenir des petites municipalités avec des moyens réduits, ça vient du journal Le Nord.
Oui, on a entendu, il y a plusieurs petites villes, il y a des petites villes du nord de l'Ontario qui sont sous la loupe pour des raisons économiques ces jours-ci. Quelques semaines, vous avez peut-être entendu par la nouvelle, Radio-Canada a fait un article national là-dessus. La petite ville de Fauquier-Strickland, au nord de Timmins, a demandé l'aide du gouvernement. Ils ont une grosse dette, puis ils ont annoncé la mise à pied de tous leurs employés pour le 1er août, là, si rien n'est fait, ça va être dans 2 jours, en fait. Donc, le Journal du Nord s'est intéressé à nous. Petite municipalité de 500 habitants, pas très loin dans leur région, et qui est pas très loin de Fauquier-Strickland aussi. La ville s'appelle Valrita-Hearty. Ils ont aussi des problèmes de financement similaires, donc pas beaucoup de revenus et beaucoup de travaux d'infrastructures à réparer. Et ils ont décidé il y a quelques années de s'attaquer aux problèmes de financement et de réparation avec une stratégie bien planifiée. La mairesse Joanne Barry fait de remarquer qu'avec un petit conseil municipal de 5 personnes et 3 employés à temps plein, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, on ne peut pas tout savoir. Il faut donc aller chercher de l'aide à l'extérieur, puis accepter qu'on peut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que Mme Barry explique que le gouvernement provincial a des exigences pour les municipalités, mais le problème, la difficulté pour eux, c'est que ces exigences-là sont les mêmes pour les grandes et les petites municipalités. Donc, pour les petites municipalités, c'est un plus gros fardeau d'atteindre ces standards-là. Malgré cette critique-là, la municipalité fait tout son possible pour rénover ses infrastructures à long terme sans imposer un fardeau excessif aux contribuables.
Parlons d'inclusion. Maintenant, un nouveau programme de jumelage pour favoriser justement l'inclusion à Calgary, c'est sort de Franco-Presse.
Je me suis trompé, ça vient du journal Le Franco, pardon.
Ah, Le Franco, oui.
Oui, c'est le portail de l'Immigration Association de Calgary qui a lancé un nouveau programme de jumelage interculturel relativement original. Le programme vise à accueillir principalement des femmes immigrantes qui viennent d'arriver dans la région de Calgary en les jumelant avec soit une famille ou une personne qui est déjà sur place. Puis ça peut être une famille ou une personne qui a immigré aussi ou quelqu'un qui est là depuis plus longtemps. Il existe 2 types de jumelage, un linguistique et un social. Pour le jumelage linguistique, c'est évident, là, ça sert à améliorer. Mais en fait, non, c'est pas évident. C'est pas pour améliorer le français, c'est pour améliorer l'anglais pour les gens qui arrivent à Calgary, parce que milieu minoritaire, on entend souvent parler des immigrants qui arrivent au Canada, pensent qu'ils vont pouvoir parler français partout, et en arrivant à l'extérieur du Québec, surtout, on se rend compte que c'est pas nécessairement possible. Et encore moins possible de travailler si on ne connaît pas un peu l'anglais. Donc, jumelage pour les aider à l'apprendre. Puis le jumelage social, quant à lui, c'est ça aide les nouvelles arrivantes à mieux connaître la ville, les services et à rencontrer des gens qui vont peut-être côtoyer au fil du temps. Les personnes jumelées travaillent bénévolement, mais elles bénéficient d'un encadrement rigoureux parce qu'on veut que ça soit bien fait. Puis le programme, bon, est juste disponible à Calgary pour l'instant, mais l'association espère pouvoir l'étendre dans d'autres villes.
Surf Bay est la première série télé francophone tournée en Colombie-Britannique. Et là, ça vient bel et bien de Franco-Presse, c'est ça?
Oui, absolument. le tournage de Surf Bay Côte-Ouest, c'est le nom complet de la série, s'est terminé début juillet. Ça a été tourné dans la région de Vancouver et de Tofino, en Colombie-Britannique. L'histoire suit Margot Swan, une surfeuse renommée et profondément attachée à son petit village de Surf Bay. Il y a un projet touristique qui menace la forêt centenaire autour du village, puis elle prend position. Ça risque de compromettre sa carrière et même de se mettre à dos ses proches. La série tient compte que l'action se passe dans un village où la francophonie est minoritaire, donc l'anglais est présent dans la série quand même. Puis ça a été tourné avec une équipe bilingue venant de partout du pays. Par exemple, l'idéateur et producteur Anthony Cochi demeure dans la région de Tofino depuis 15 ans. Les 2 actrices principales, Camille Felton et Mia Wistaff, sont québécoises. Et une bonne partie de l'équipe de production venait de la région du tournage. Et il y avait d'autres gens aussi, un réalisateur qui est bien connu dans la francophonie canadienne, mais qui n'est pas nécessairement un britanno-colombien. Il y a un thème environnemental aussi à tout ça, là, de selon l'histoire, synoptiste que je vous ai mentionné. Donc, la série a essayé de réduire son empreinte carbone avec l'aide d'une conseillère. Puis, si vous vous posez la question, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça va être sur TV5 Uni en 2026. Il y a un nouveau partenariat inédit avec Crave qui va présenter la série sous-titrée en 2027 sur son service de vidéo continue.
J'imagine sous-titrée dans toutes les langues, incluant l'anglais, là, pour ceux qui voudront la regarder et qui ne parlent pas français.
Exactement.
Ah, c'est génial. Julien Caillouette, rédacteur en chef de Franco-Presse, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.